Kevin Breton sur le micro, ou plutôt au micro pour le Canal M. Hey, ça commence très mal cette émission-là. Kevin Breton au micro pour M l'été, le magazine de Canal M. Voilà, c'est reparti de plus belle. Aujourd'hui à l'émission, bien, vous savez peut-être, toutes les municipalités de plus de 15 000 habitants sont tenues de soumettre un plan d'accessibilité. Aujourd'hui, on va voir comment ce plan-là se décline du côté de Saint-Lambert. On va également avoir avec nous une représentante du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Également, la visite de Sarah Rouleau d'INCA qui va nous expliquer comment c'est... Oui, non seulement possible de prendre des photos quand on a une perte de vision, mais même que c'est rendu tellement facile que ça se glisse dans notre dans un instant à M l'été. Il y a environ 3 semaines de cela, est-ce que ça fait déjà un mois, peut-être un mois déjà, je vous parlais d'une randonnée en vélo qui allait se dérouler du côté d'Alma avec 7 personnes atteintes d'une déficience visuelle. Eh bien, le périple est terminé. Semble-t-il que ça s'est bien passé, à en croire un article du journal Le Lac-Saint-Jean signé par France Paradis. Leur guide donne les instructions et décrivent le paysage au fur et à mesure de la balade, mais avec les autres sens. Les 7 personnes avec une déficience visuelle qui font présentement le tour du lac à vélo apprécient chaque seconde de leur expérience. Arrivés dimanche dans la région, ces 7 membres de l'Association des sports pour aveugles de Montréal, la SAM, ont choisi de faire le tour du lac Saint-Jean sur une période de 4 jours afin de découvrir ce coin du pays. Pour nous, c'est une tournée fantastique, souligne Jocelyne Richard. Ils sont faciles à reconnaître car ils sont 14 cyclistes qui enfourchent leur vélo tandem pour pédaler sur la véloroute des Bleuets. Les 7 personnes avec une déficience visuelle portent des dossards verts fluo. Chacun est accompagné d'un guide cycliste qui devient leurs yeux pour cette expérience. Pour que ce genre de promenade se déroule bien, il faut une très bonne communication entre le guide et son accompagnateur non-voyant. À chaque élément, le guide communique les instructions. OK, on décolle, on va changer de vitesse pour monter une côte, on va descendre une, on arrête une intersection, on tourne à gauche, à droite, tu peux descendre du vélo de tel côté, etc. Explique sans reprendre son souffle Jocelyne Richard, qui est la présidente de la SAM. On peut se rendre à Alma ou au lac Saint-Jean quand on est une personne avec une déficience visuelle, mais on peut se rendre encore plus loin. Il y a un article de la presse canadienne, en fait, qui est disponible sur le site de lapresse.ca, qui date du 23 août. Le titre « Des aveugles font du tourisme en Colombie ». Danser la salsa, se promener dans les autobus colorés de Colombie, s'élancer en parapente à Cali, un groupe de touristes fait tout cela à un détail près. Ils sont aveugles ou malvoyants. Venus de plusieurs pays d'Amérique latine et d'Europe, 69 étrangers sont arrivés dans la 3e ville de Colombie pour profiter de vraies vacances grâce à un programme spécialement conçu pour eux et déjà testé en Argentine et au Mexique. Pour découvrir Cali, commune entourée de verre et qui a tourné la page du narcotrafic pour laquelle elle était tristement connue, ces touristes d'un nouveau genre sont guidés avec soin. Cela me semble une expérience merveilleuse, se réjouit Rafa Matos, espagnol de 45 ans, qui participe au programme. On a les gens qui nous expliquent à tout moment ce qui nous entoure, le chemin, les endroits où l'on marche, raconte-t-il. Derrière cette initiative atypique, l'Argentin Pablo Lecuana, 43 ans, qui a d'abord lancé en 1999 la première bibliothèque numérique pour aveugles en espagnol, avec plus de 50 000 titres. Une expérience atypique, certes, mais on en voit de plus en plus, puis ça va heureusement devenir de plus en plus commun de voir des personnes avec une déficience visuelle pouvoir voyager et dépasser les frontières. Autre article qui a été déniché par notre recherchiste Sylvie Rivard qui m'a bien fait rire, une belle trouvaille de sa part, elle qui épluche toujours les journaux à chaque jour pour trouver les articles qui vous intéresse afin que je vous en fasse la lecture. Celui-ci est du journaliste Frédéric Mercier du Journal de Montréal. Écoutez bien ça. À l'aéroport de Calgary, une campagne publicitaire du constructeur automobile Lexus a suscité la controverse pour avoir accaparé plusieurs emplacements de stationnement habituellement dédiés aux personnes à mobilité réduite. En partenariat avec l'aéroport de Calgary, Lexus Canada a fait aménager 5 espaces de stationnement réservés au modèle arborant son écusson. Le hic, c'est qu'on a sacrifié plusieurs espaces habituellement destinés aux personnes handicapées pour mettre en œuvre cette campagne publicitaire. Le mot s'est rapidement rendu jusqu'à CBC News et il n'en fallait pas plus pour que l'histoire prenne de l'ampleur. C'est une famille nécessitant justement un accès à l'un de ces stationnements qui aurait d'abord constaté la situation. La direction de Lexus Canada a tenu à préciser qu'elle n'était pas au courant que les stationnements utilisés pour sa campagne publicitaire étaient ceux de personnes à mobilité réduite. Nous avons demandé à l'aéroport de corriger la situation le plus rapidement possible en redonnant à ces espaces leur vocation habituelle, a précisé le constructeur par voie de communiqué. La direction de l'aéroport de Calgary a d'ailleurs accepté de prendre le blâme, spécifiant que Lexus Canada n'a jamais été mis au courant de l'utilité ordinaire des fameux stationnements réservés. Les dirigeants de l'aéroport ont aussi confirmé que la situation sera rétablie très rapidement. Lexus devra trouver un autre moyen pour récompenser ses conducteurs. Puis en effet, c'est pas la première fois que j'entends parler d'une situation de genre. Parfois, c'est on utilise ces stationnements-là, on leur donne une nouvelle vocation pour des stunts publicitaires. Mais d'autres fois, c'est il y a simplement un déchargement de matériel, de construction. Et puis, ben, c'est ces stationnements-là qu'on va utiliser a priori parce qu'ils sont plus souvent laissés libres, laissés vacants. Mais il faut comprendre en fait que ces stationnements-là, s'ils existent, c'est pas seulement une question d'avoir une priorité. C'est que s'ils ne sont pas là et qu'ils permettent aux automobilistes qui nécessitent un emplacement plus large, ben, ces automobilistes-là ne pourront souvent même pas pouvoir sortir la rampe d'accès qui permet aux automobilistes en fauteuil roulant d'entrer et de sortir de leur véhicule. Donc, c'est pas juste une question d'avoir priorité ou d'être plus proche du commerce. C'est vraiment une question de pouvoir ou non sortir de son automobile. Dans un tout autre ordre d'idées, Google a mis en ligne un questionnaire pour diagnostiquer la dépression chez les internautes. En partenariat avec l'Alliance nationale américaine sur la maladie mentale, Google a développé un questionnaire en 9 questions disponible en ligne pour savoir si l'on souffre ou non de dépression. Près d'un Américain sur 5 connaît un épisode dépressif au cours de sa vie, mais très souvent, les malades attendent en moyenne 6 à 8 ans avant d'aller voir un médecin pour être suivi et soigné, déplore l'Alliance 8 ans. Hein, franchement, là, c'est tout à fait aberrant. La raison, bien, c'est qu'une mauvaise interprétation des symptômes comme l'insomnie ou l'anxiété ou le poids des préjugés qui entourent le mot dépression dans notre société, ben, vont repousser les gens à aller consulter des spécialistes. Donc, pour aider les internautes à déceler ce mal et les inciter à aller confirmer ce diagnostic chez un professionnel de santé, la NAMI, l'association en question, s'est associée avec le géant des moteurs de recherche Google. Dorénavant aux États-Unis, lorsqu'un internaute tapera les mots-clés « dépression clinique » depuis la barre de recherche de son mobile, Google affichera un « knowledge panel », un petit carré d'informations clés dans lequel il sera possible de cliquer sur le lien « vérifier si vous souffrez de dépression ». C'est Christiane Campagna, notre responsable des communications, que vous avez peut-être entendu entrer dans le studio. Bonjour, Christiane.
Bonjour.
Aujourd'hui, on a eu l'idée, avant de commencer l'émission, de proposer, les gens qui nous écoutent, on est très contents qu'ils nous écoutent à Canal M. On veut leur proposer d'autres plateformes, d'autres sources d'informations, d'autres sources de contenu. Donc, un petit peu plus tard, je vais vous proposer des balado-diffusions. On sait que c'est de plus en plus populaire et c'est un médium qui plaît particulièrement aux personnes avec une perte de vision, puisqu'ils ont accès en fait au même contenu que n'importe qui, là, comme toi et moi qui avons accès à la vue.
Oui, il y a même des chaînes télé qui offrent des versions audio de leurs émissions en balado.
Tout à fait. Moi, j'ai même commencé, en fait, à écouter des émissions sur Netflix, par exemple, avec la vidéo description. parce que je fais la cuisine en même temps ou je fais la vaisselle en même temps. Puis là, je me dis que la prochaine étape, c'est peut-être de prendre ces émissions-là en vidéo description et les écouter en balado sur mon téléphone, peut-être, qui sait, un jour. Mais avant de parler de tout ça, on veut savoir, en fait, sur le site de Vusevoix.com, c'est possible de retrouver les anciennes émissions. Puis on voudrait savoir comment, en fait.
Oui, absolument. Et en fait, il y a deux façons en ligne au canalem.vusevoix.com, c'est bien ça, d'écouter nos émissions. Donc, bien sûr, en direct à partir de la page d'accueil. Mais toutes les émissions sont disponibles en différé, soit l'émission entière, quand vous allez à la page de l'émission, mais aussi pour plusieurs de ces émissions-là, chacune des entrevues ou des chroniques est disponible. C'est pas toujours le cas. Il y a des émissions où on manquerait quelque chose si, quand c'est vraiment un tour de table, on les divise pas. Mais c'est vraiment souvent le cas.
Quand c'est des chroniques tout à fait isolées, là, qui n'ont pas de lien avec l'avant ou l'après de l'émission. Là.
Exactement. Et ça vous donne l'occasion d'aller chercher les sujets qui vous intéressent le plus. Donc, vous pouvez les trouver sur la page de l'épisode. Vous descendez et en bas, il y a les segments de l'émission où chacune des parties est présente. Vous pouvez aussi choisir d'écouter toutes les chroniques et toutes les entrevues en lien avec une thématique précise. Alors, sur la page d'accueil, vous avez dans le menu en haut, vous avez « Thématiques ». Et quand vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur nos différentes thématiques. Par exemple, si vous vous intéressez particulièrement au sujet qui touche le handicap visuel, il y a un fil audio pour ça. Il y a un fil audio pour la déficience intellectuelle. Certains sujets peuvent revenir dans plus d'une catégorie.
Et la bibliothèque de Canalem est bien garnie. Il y a plusieurs invités qui se sont succédés en studio depuis de nombreuses années. Donc, la bibliothèque est assez bien fournie. Si moi, je veux, par exemple, entendre pendant une heure des sujets qui traitent de santé mentale, ben, je peux choisir l'onglet « Santé mentale » et entendre des extraits qui portent sur ce sujet.
Il n'y a pas d'onglet « Santé mentale ». Ils sont dans santé, mais il y a une étiquette. Par contre, si vous cliquez sur santé mentale, vous allez voir tous les épisodes où il y en a eu. Ceci dit, ce système-là est pour les épisodes depuis notre nouveau site web, c'est-à-dire au mois d'octobre. Depuis la programmation qui a débuté en septembre 2016. Mais on a gardé les vieilles émissions sur notre site web. Évidemment, l'intégration, ce n'est pas toujours fait parfaitement. Ça se peut qu'il y ait que visuellement... Il y a des petits anicroches. Mais souvent, les autres radios choisissent dans ce temps-là d'enlever les archives. Nous, on a choisi de les garder. Mais si vous vous souvenez du nom des personnes qui ont été interviewées, vous pouvez les trouver grâce à la barre de recherche. Et comme sur Google, vous pouvez mettre les expressions entre guillemets pour les retrouver en entier, ce qui est fort utile quand on veut justement santé mentale ou veut dire le nom, si on veut Kevin Breton et non pas tous les Kevin et tous les Bretons qui sont passés ici.
J'espère qu'ils sont rares. J'ai pas vu beaucoup de Kevin venir en studio sur Canalem, très étrangement. Mais je suis quand même très fier de mon prénom. Merci, Christelle. On rappelle aussi que c'est toi qui mets en ligne à chaque jour sur MLT les autres émissions, les liens qui sont en lien avec les différents invités qui sont passés. Donc, si jamais on vous mentionne un lien, vous voulez avoir plus d'informations sur un organisme ou un invité, on se rend sur la page.
Une dernière petite chose, peut-être, vu que tu t'apprêtes à parler de balado-diffusion.
Oui.
Sur la page des émissions, vous allez voir qu'il y a le petit sigle « S'abonner ». Ça vous permet d'obtenir soit le code XML là, pour ceux qui maîtrisent la technologie et qui veulent choisir leur agrégateur de balado-diffusion. Et vous pouvez aussi nous trouver sur iTunes. Vous tapez Canalem et ça va vous mener à la plupart de nos émissions en cours.
Parfait, merci beaucoup, Christiane. Maintenant, on va aller écouter un extrait d'une balado. Le balado s'appelle « Le journal du film T'es où, Youssef? » Je vous en parle un peu plus dans un instant, mais tout d'abord, on va écouter ce petit bijou radiophonique.
Je t'en parle, j'ai des frissons juste de le dire, tu sais. T'as un potentiel narratif incroyable. T'as un départ, t'as une famille qui reste derrière, t'as des enjeux culturels. J'étais extrêmement excité sur ce type d'histoire.
T'es où, Youssef?
Trois jeunes Québécois, trois jeunes musulmans de la région de Sherbrooke qui sont comme disparus dans la brume.
Des jeunes qui ont déjà finalement vécu à Sherbrooke et qui demeurent pour l'instant introuvables, ça commence à être fort inquiétant, notamment évidemment pour leur famille.
Le SCRS, la GRC ont de grandes préoccupations quant au sort de Youssef.
T'es où, Youssef?
Le journal du film, réalisé par Gabriel Allard et Cédric Chabuel, épisode 1.
Donc, on vient d'entendre en fait un extrait de Théo Youssef, le journal du film. Vous avez certainement déjà entendu parler de cette production de Télé-Québec, T'es où, Youssef, là, où on retrace en fait la mystérieuse disparition d'un jeune Sherbrookois là, dans la fin vingtaine, un étudiant qui décide tout simplement du jour au lendemain de partir, ce serait radicalisé. Et puis là, ben, y a une équipe qui part à sa recherche, essaie de le traquer. C'est un excellent documentaire. Moi, ce que je connaissais pas, que j'ai appris l'existence récemment, c'est qu'il y a également une série de balado-diffusion qui retrace le parcours de Gabriel Allard-Gagnon et Mathieu Paiement à la réalisation. Donc, c'est sous format sonore. C'est un podcast qui est divisé en 8 épisodes. On vient d'entendre là, un extrait du tout premier. Et puis, ben voilà, ça suit la construction du documentaire, leur hésitation, leurs craintes, comment cette idée-là est germée dans leur tête. C'est disponible sur iTunes gratuitement, vraiment. On m'a dit que c'était palpitant. Moi, j'ai juste écouté le premier épisode, mais ça nous tient en haleine. Et surtout, ce qui est extraordinaire, je pense, et qui va pouvoir vraiment permettre d'être apprécié par le public avec une perte de vision, c'est que l'environnement sonore a été construit avec un très grand soin, un très grand souci que ça ne soit pas trop surchargé, que l'oreille soit juste suffisamment stimulée. Et des amis à moi avec une déficience visuelle m'ont déjà parlé en bien de Théo Youssef, le journal du film. On va pouvoir mettre le lien sur visezvoix.com si jamais vous voulez aller vous le procurer et l'écouter, pourquoi pas. Parmi mes autres suggestions de balado diffusion que moi j'écoute, ben il faut souligner la plateforme Première Plus hein, chez nos amis de la première chaîne de Radio-Canada qui rassemble la majorité de leur contenu radiophonique. Moi, mon classique, ce que j'aime beaucoup, c'est les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire où on se plonge dans le passé pour redécouvrir des événements très particuliers de l'histoire. C'est disponible sur Première Plus sur le site de Radio-Canada. Et finalement, si vous êtes intéressé par la culture geek, bien, de manière très conviviale, il y a des garçons qui vont avoir, ben, je dis des garçons parce que c'est majoritairement des hommes qui animent ces discussions-là, avoir de très longs échanges sur les derniers films, les dernières bandes dessinées, les dernières séries, bref, tout ce qui est issu des contenus geeks et des produits culturels. Ça s'appelle Les Mystérieux Étonnants. Ça s'écoute très bien, c'est sympathique, c'est convivial. mystérieuxétonnants.com au pluriel. C'est ce qui met fin à ce petit segment sur les balados diffusion. On va être de retour dans un instant après un petit intermède musical. On va discuter en fait avec Sarah Rouleau de l'organisme INCA pour savoir comment c'est possible de prendre des photos quand on n'a pas accès au sens de la vue et d'une nouvelle application qui a été créée par Microsoft qui promet vraiment littéralement de changer le quotidien des personnes aveugles. Et le mieux dans tout ça, bien, c'est que c'est gratuit.
بس
On peut s'imaginer la scène d'un rallye photo, peut-être qui va sortir un petit peu de l'ordinaire, ou en tout cas qui va peut-être faire sourciller les passants. Imaginez un groupe, un rassemblement de personnes dont certaines ont des cannes blanches, certaines ont une déficience visuelle, et ils sont autour, ils sont en train de prendre des photos avec leur appareil téléphone. C'est une scène qui va devenir de plus en plus habituelle dans les prochaines années grâce à la promesse de la technologie. Pour nous parler de ce rallye un peu étonnant ou inusité, on rejoint au bout du fil Sarah Rouleau, qui est responsable des communications, du marketing et des événements spéciaux chez INCA Québec. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Vous avez passé une belle journée hier, donc.
Oui, vraiment. C'était très intéressant. Puis les participants ont beaucoup aimé ça. Comme tu l'as dit, là, c'était un groupe de personnes qui vivent avec une perte de vision qui prenaient des photos. Donc, nous, à INCA, on donne des formations en technologie adaptées depuis longtemps. Mm-hmm. Souvent, là, c'est peut-être plus pour apprendre Windows, la suite Office, Internet. Mais là, on voulait être un petit peu plus flyé, là, comme on dit. Puis, justement, avoir quelque chose qui leur permettent eux aussi de prendre des photos. Et il y a Apple qui nous a approchés avec qui on fait en collaboration d'autres ateliers, parce qu'on sait qu'ils sont déjà très accessibles et tout. Et eux font des ateliers, ça s'appelle Today at Apple. Et ils ont accepté de faire leur rallye photo qu'ils font déjà normalement, mais pour notre clientèle. Fait qu'hier, c'était un petit groupe qui apprenait à prendre des photos avec VoiceOver. Donc, le but, là, c'était de leur permettre d'être plus autonomes, là, de pouvoir prendre des photos eux-mêmes, de partager avec leur famille, soit de prendre des photos de souvenirs, de vacances, excuse-moi, de prendre leurs proches ou même des égo-portraits.
Mais ça fonctionne comment? En fait, peut-être pour quelqu'un tout d'abord qui ne connaît pas VoiceOver, il faut savoir que c'est une fonction sur les produits Apple. Et en fait, ça va guider à l'aide du son le photographe non-voyant pour lui montrer ou lui dire quand prendre la photo, par exemple.
Oui, exactement. En fait, VoiceOver, ça facilite l'utilisation du téléphone cellulaire. Donc, c'est plus facile de se promener d'un menu à l'autre. Donc, déjà, c'est plus facile à utiliser le iPhone pour les personnes qui vivent avec une perte de vision. Puis, dans l'application photo. Bon, nous, on avait un formateur là-bas qui leur a permis vraiment de tout tester. Peut-être pas tout tester, mais en tout cas de se familiariser avec le voice-over et la fonction caméra. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que, justement, ça veut dire quand il y a un visage. Donc, pour être sûr de ne pas filmer les pieds ou le plafond, bien, quand le téléphone, la caméra détecte un visage, ça l'indique.
Ça va le dire, en fait. Ça va dire un visage.
Oui, un visage, deux visages, trois visages. Et ça va même dire s'il est centré. Là, ça, c'est un petit peu plus touché parce qu'on sait qu'un téléphone, dès qu'on le bouge un peu, là, ça fait une grosse différence. Mais tu sais, ça veut dire un visage trop à droite, un visage trop à gauche. Fait que là, c'est même possible, en étant patient, d'essayer de centrer notre sujet le mieux qu'on peut. Mais au moins déjà avec la fonction détecter un visage, ça aide énormément. Fait qu'il y a ça, puis la navigation là, qui est facilitée avec VoiceOver.
Puis est-ce que la technologie permet également de dire à quelle distance se trouvent, par exemple, les visages, ou est-ce que ça détecte assez loin les visages présents sur la caméra?
Ça les détecte quand même loin. En fait, je veux pas me mêler parce que tantôt, juste après, là, dans la même chronique, je vous parle de Seeing AI. Ouais. Seeing AI, je sais qu'il détecte justement là, un visage, deux visages, et il dit la distance. Mais VoiceOver, il me semble que non, hier, c'était en anglais avec VoiceOver, c'est pas toujours évident à suivre. VoiceOver va être plus avec un petit peu trop du côté droit, un petit peu trop du côté gauche, mais il va dire un gros visage, un petit visage.
Fait quand même, deux visages ou trois visages, oui. Puis les gens peuvent l'essayer à la maison pour le tester de toute façon, parce que si vous avez un produit Apple, VoiceOver, c'est pas quelque chose qu'il faut télécharger, là, c'est par défaut sur son téléphone. Et là, bien oui, Sarah, Seeing AI, cette nouvelle technologie de Microsoft, c'est drôle parce que tu connais ma collègue chez Ami Télé, Christine Rousseau.
Oui.
Elle l'a téléchargé comme au début de l'été et elle ne parle que de ça. Elle ne jure que de ça. Semble-t-il que ça a vraiment un potentiel de changer la vie des personnes avec une basse vision?
Mais en fait, ce qui est le fun, c'est que ça rassemble vraiment plusieurs applications. C'est quand même, nous aussi, là, on était très excités quand on l'a essayé. C'est très impressionnant. Il y a 5 applications en une. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est gratuit. Donc, le concept de base, c'est que ça décrit l'environnement qui nous entoure. Fait que ça va soit décrire une personne, décrire une scène, décrire du texte ou décrire un objet. Fait que c'est le concept. Et il y a différents modes pour ça. Donc, le mode personne, qui est ce que je disais tantôt, c'est un peu comme le voice-over, un peu comme ce qu'on a fait hier dans l'atelier photo. On peut prendre une photo, puis ça va nous détecter. Mais une fois que la photo est prise, ça va nous aider à prendre la photo, mais une fois qu'elle est prise, ça va nous dire si c'est un homme ou une femme. Ça va nous donner l'âge approximatif de la personne.
Puis on l'a essayé, c'est vraiment étonnant, moi, sur ma collègue Jessie, qui avait 27 ans, on l'a essayé, puis ça l'a dit que l'application de Microsoft disait qu'elle avait 25 heures, donc c'est comme vraiment saisissant à quel point c'est... Puis ça fonctionne bien avec du texte aussi, là. C'est incroyable.
Exactement, c'est ça. En fait, avec le texte, il y a deux modes. Il y a un mode que c'est comme ça va lire en direct, donc c'est bon pour le coup, là, par exemple, le titre d'un livre, une affiche, des indications, un dépliant, peut-être le titre du dépliant, un nom de rue. Donc, quand on met le téléphone et qu'il voit du texte, il va le lire en direct.
Instantanément.
Il va nous dire que c'est, oui.
Parce que ça existait déjà, cette technologie-là de reconnaissance de caractère,
exact.
Mais des fois, il y avait un petit délai. Là, Microsoft a vraiment perfectionné la patente, j'ai l'impression.
Bien, c'est ça qui est le fun. Puis, comme je disais tantôt, c'est que toutes ces applications-là ou ces façons de faire-là, qui des fois existaient dans d'autres, là, sont regroupées. L'autre mode aussi, et ça, c'est le en direct, mais sinon, bon, pour un texte plus long, parce que des fois, on bouge avec le téléphone aussi, si je pense à une recette, une page imprimée, des choses comme ça, là, ça va prendre une photo. Ça t'indique, tu sais, quand la personne, elle ne sait pas, bien, elle va te dire « oui, là, t'es bien placé, c'est bon ». Ça prend une photo, puis ça va te lire tout le texte qui est marqué sur la page imprimée. Fait que ça aussi, c'est vraiment pratique. Puis l'autre mode, en fait, il y a deux autres modes. Le mode produit, c'est que ça va détecter
les codes barres.
Mais t'as pas besoin de le mettre directement. Lui, quand il voit le code barre, il fait un son, puis dit qu'est-ce que c'est le produit. Donc, mettons, t'as une peau de pilule, tu sais pas ce que c'est.
Ça va le détecter et le traduire. Oui,
exactement.
Donc, c'est vraiment plein de potentiel. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, mais on va mettre les informations sur visevoix.com. On rappelle que c'est gratuit si jamais les gens veulent la télécharger. Merci beaucoup, Sarah Rouleau.
Ben, ça fait plaisir. C'est la preuve que la technologie là, peut vraiment aider dans la vie.
À bientôt.
Merci.
L'été. Bien oui, c'est toujours encore Aime l'été. Je pense que notre titre d'émission va encore pouvoir être pertinent quelques semaines, quelques jours. Ce matin, je me suis surpris à avoir un peu froid en laissant la fenêtre ouverte dans mon appartement. Donc, j'ai l'impression que l'été tire à sa fin, mais il nous reste encore quelques belles émissions et quelques invités dont on a très hâte de vous parler, dont la prochaine invitée qui est en studio en ce moment avec nous, Madame Françoise Henry, directrice de la Société des arts en milieu de santé. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien, merci.
Oui, on profite bien encore des derniers moments de soleil de l'été.
Oui, magnifique journée aujourd'hui.
Est-ce que vous pouvez nous parler en fait de cette Société des arts en milieu de santé qui a été créée en 2009 en fait, là, mais que certaines personnes encore ne connaissent pas encore?
Bien oui, c'est ça. On s'est toujours un peu étonné après toutes ces années, mais oui, on gagne à être connu. Alors la Société pour les arts en milieu de santé, c'est un organisme artistique. Qui, en fait, produit des concerts de musique classique, de musique jazz et de musique du monde dans les milieux de santé, mais plus particulièrement dans les CHSLD, les résidences pour personnes âgées et les hôpitaux.
Donc, c'est comme des petits concerts pour emporter que vous emmenez.
Exactement, très bien dit, oui, tout à fait. Ce sont des concerts de 45 minutes qui sont commentés, qui sont animés par les artistes eux-mêmes.
Et là, vous allez rencontrer des usagers, des centres de soins de longue durée, comme dans les CHSLD. Puis c'est quoi la réaction des gens quand on voit des musiciens arriver dans leur chambre?
Ah ben oui, on en fait aussi dans les chambres, tout à fait. Ça, c'est une expérience particulière qu'on appelle la musique au chevet. Mais disons que l'ensemble de nos activités se fait dans les salons communautaires et tout ça, vraiment en formule concert, comme si la personne allait à la Place des Arts. D'ailleurs, on s'appelle, entre guillemets, la Place des Arts en milieu de santé. Oui, c'est ça. Alors, on cherche à vraiment recréer l'atmosphère qu'on peut retrouver dans une salle de concert. Les réactions sont très enthousiastes parce que, justement, parce que ça fait un certain temps, il y a des résidents qui reconnaissent les musiciens.
C'est un langage universel.
C'est un langage universel.
Ça a un potentiel et un pouvoir infini sur le cerveau, celui de la musique. On peut penser notamment aux personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. La musique a vraiment un effet bénéfique sur eux pour se remémorer des souvenirs. Là, c'est vraiment surprenant, l'effet.
Absolument. C'est comme si la musique allait toucher une partie du cerveau qui était encore en santé. Mm-hmm. Alors, on est au début là, de ces recherches-là.
Ouais.
Mais je pense que c'est très, très prometteur, en tout cas, pour l'avenir des personnes atteintes d'Alzheimer. Mais en fait, la majorité des gens qui sont en résidence, je veux dire, bénéficient de nos concerts, mm-hmm, parce que ça a un impact sur la physiologie. Ça a un impact sur
qu'est-ce qu'on entend par physiologie?
Ben, par exemple, votre pouls, votre cœur va battre plus lentement. Vous alliez faire moins d'anxiété.
Uh-huh. Ça a un effet apaisant,
oui,
un effet calmant sur
exactement
les patients. Puis on peut juste briser la routine, briser l'isolement. En fait, si on ne peut exactement plus se rendre à la musique, c'est la musique qui va se rendre à eux.
Voilà.
C'est ça le concept
tout
un peu
fait
de ce magnifique projet.
Compris.
C'est vraiment super. Et là, vous avez fait plus de 600 concerts par année depuis 2009.
Oui.
Qui participe à ces concerts-là?
En termes de musiciens, c'est des musiciens professionnels qu'on uh-huh recrute sous audition, d'ailleurs. On fait des auditions dans les CHSLD. Parce que pour nous, évidemment, ça prend des excellents musiciens, bien sûr, mais ça prend aussi des gens qui sont capables de bien s'adapter à cet environnement-là,
mm-hmm,
qui sont capables aussi de communiquer avec nos aînés. Donc, on les regarde aller en CHSLD, puis on se fait une idée comme ça. Ce sont des musiciens qui travaillent dans nos grands orchestres à Montréal, mais aussi à Québec et puis en région.
Ça prend
donc,
combien
voilà
d'artistes pour avoir 600 concerts par année? Puis là, en plus, vous déplacez Montréal, Québec, Laval, Charlevoix,
oui,
la liste est infinie.
Oui, oui, il y a beaucoup de
villes,
Tracy, tout
ouais
à fait. J'ai à peu près 130 musiciens qui travaillent à la SAMS. Et puis, on a à peu près autant de lieux
De diffusion.
Ouais.
Ouais, c'est vraiment super.
Ouais.
Et là, ça, c'est le projet en tant que tel, mais il y a un projet sous-jacent à ça qui s'appelle le projet Cueilleur de mémoire, déjà,
oui,
félicitations pour le titre, c'est très touchant, très évocateur. D'où est-ce que c'est né, en fait, c'est venu en parallèle avec le projet ou...
Oui, c'est ça, c'est comme une activité, dans le fond, hors saison, une activité spéciale. Ça m'est venu comme idée alors qu'on commençait à parler du 375e. Et puis, moi, j'étais allée dans les résidences, évidemment, pour entendre des concerts, puis je remarquais à quel point les aînés... en avait à compter. Hein?
Mm-hmm.
Les aînés aiment partager leurs souvenirs.
Mm-hmm.
Et donc, je me suis dit, mais il me semble que c'est l'occasion idéale pour prendre ces souvenirs-là et puis les transformer dans une forme artistique. Évidemment que nous, on fait de la musique, donc ça a été l'idée de transformer ça dans une œuvre musicale.
Donc là, vous allez rencontrer des gens qui partagent leurs souvenirs. Vous faites comment pour... être la bougie d'allumage, puis pour permettre aux gens de s'ouvrir. Est-ce que c'est facile de laisser les gens s'ouvrir sur leurs souvenirs comme ça,
ben
ou
en fait,
s'il y a des réticences?
J'étais assez contente du résultat parce que c'était assez bien orchestré. D'ailleurs, on s'est servi de la musique pour arriver à dénouer les langues,
mm-hmm,
parce qu'on sait que la musique aussi, c'est, comme vous l'avez dit tantôt, c'est très évocatrice de souvenirs. Donc, la façon dont on procédait, c'est qu'on avait un groupe de 3 musiciens qui se rendaient dans les CHSLD, qui disait, bon, aujourd'hui, on va parler, par exemple, notre thème, c'est les plaisirs. Et les plaisirs coupables, peut-être.
Ouais.
Et puis là, il y avait une musique qui était jouée en lien avec ça.
Et là, ça déclenche
là,
sûrement
oui,
les émotions. Puis,
puis là, on recueillait ça. On avait des gens qui filmaient, qui enregistraient tout ça.
Moi, ça me fait penser, c'est sûrement... Moi, je pense à mes grands-parents, puis votre idée de donner un thème comme le plaisir, je me dis, ça doit vraiment être un facilitateur, parce que si tu vas voir ta grand-maman, puis tu lui dis, raconte-moi tes souvenirs, ça se peut qu'elle bloque un peu. Mais si tu mets une musique derrière fond, puis tu lui dis, raconte-moi ton plus beau voyage, là, c'est de même qu'on va réussir
oui
peut-être à déterrer
d'ailleurs,
les souvenirs.
Ça, c'était un autre thème.
Le voyage.
Mm-hmm. On a parlé aussi, c'était intéressant, parce que les gens, il y en avait qui avaient, près de 90 ans. Donc, ils avaient connu toute la période de la Révolution tranquille.
Uh-huh.
Alors, il y avait aussi beaucoup le rapport à la religion qui a été abordé. La femme, la condition de la femme qui a énormément changé sur cette période-là aussi. On a parlé de l'Expo 67, on a parlé des familles nombreuses. Je veux dire, il y a eu toutes sortes de thèmes qui sont ressortis plus passionnants les uns que les autres, vraiment.
Puis ces souvenirs-là s'articulent comment ensuite? Est-ce que c'est monté à la musique? C'est superposé
ouais,
à la musique?
Ben
puis...
ça, c'est ça. J'ai eu la chance de travailler avec un compositeur qui a embarqué à 110% dans le projet qui s'appelle Kiat Abassian et qui, lui, était là quand on faisait la cueillette des souvenirs. Et lui, ça lui a inspiré. Dans le fond, là, on a fait appel à sa sensibilité artistique pour que ça lui inspire des mélodies. Et la beauté de la chose, c'est qu'on a été capable de juxtaposer des citations que les aînés avaient dites dans le texte. Donc, c'est devenu, dans le fond, une œuvre à plusieurs mouvements, en partie instrumentale, pour refléter l'espèce d'atmosphère qu'on avait ressentie, que lui avait ressentie durant ses rencontres, et puis des chansons, dont les paroles ont été écrites par Hélène Dorion, notre grande poète, mais inspirées des souvenirs qui avaient été cueillis au moment là, des rencontres.
Puis ces pièces musicales-là qui sont co-créées comme ça, est-ce que c'est possible de les réécouter? Est-ce qu'on peut se les procurer d'une façon ou d'une autre?
Pour l'instant, c'est pas possible parce qu'on est exclusif.
C'est ça. Dans le sens c'est où spontané.
On est dans les résidences pour l'instant. Mais c'est possible que ça soit... En fait, ça serait souhaitable
ça serait un beau projet.
Que le grand public puisse aussi en profiter, certainement.
Quand on parle d'héritage, parce que vous me disiez que, ce projet est venu de l'idée du 375e de Montréal, puis on parle d'héritage, puis de legs, puis de patrimoine, mais en fait, le patrimoine puis l'héritage le plus précieux qu'une ville peut avoir, c'est celui de ses habitants. Fait que c'est vraiment une bonne manière de perpétuer ces souvenirs-là puis de les rendre immortels.
Tout à fait.
Franchement, félicitations pour... Là, vous avez quoi, 15 rencontres avec ces résidents-là pour
On a eu des rencontres, on en a fait, une quinzaine, peut-être un petit peu plus que ça, parce qu'on avait 3 thèmes. Oui, c'est ça, une quinzaine, on a rencontré une centaine d'aînés. Et là, on est dans la phase où on diffuse l'œuvre, c'est-à-dire que là, on retourne voir les aînés puis on leur dit « Regardez ce qu'on a fait avec vos souvenirs ». Et là, on a une trentaine de représentations prévues sur 2 ans. Là.
Dans les prochains... Est-ce que ça commence dans les prochains mois?
Ça a commencé en juin dernier.
Okay,
et puis
déjà...
ça va se poursuivre jusqu'en juin prochain.
Super. Est-ce que c'est seulement à Montréal ou vous continuez de vous déplacer encore en région?
Pour l'instant, c'est Montréal. Tout est possible. Hein? On essaie de faire des petits avec ça, c'est sûr.
Super. Félicitations. Également, on peut souligner que ce projet a vu le jour en partie grâce à une source de financement importante qui est celui de la Fondation du Grand Montréal.
Oui, c'est bon de le noter. Ils ont été derrière nous à 110% là-dessus.
Si jamais on veut en apprendre plus sur l'œuvre dans son ensemble, on peut donner le site Internet. Si jamais également on veut donner un coup de main, c'est samsanté.org,
exactement.
Le site Internet. SAM également pour Société des arts en milieu de santé. Félicitations pour tous les projets, dont celui des cœurs de mémoire. Franchement, félicitations. Je pense que vous faites beaucoup de bien à tous les résidents qui en ont besoin dans les CHSLD. On sait que ce n'est pas toujours un environnement le plus stimulant nécessairement. Donc, bravo. Merci beaucoup à Françoise Henry également d'être venue en studio aujourd'hui avec nous pour nous partager ses projets.
Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. Nous, on va aller à un petit intermède musical. Puis après la pause, bien, on va parler d'accessibilité universelle dans les différentes municipalités. On va aller faire notamment un tour du côté de Saint-Lambert, sur la rive sud, dans un instant à MLT.
Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne. Et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux? Des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Les mots,
les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mourants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé.
Que reste-t-il de nos amours? J'en profite pour remercier Mathieu à la mise en onde, qui est également technicien de mise en onde slash DJ, et c'est lui qui vous emmène toutes ces belles chansons à vos oreilles sur M l'été. On poursuit avec notre dernier sujet de discussion de la journée. En ce moment, du côté de Saint-Lambert, il y a une grande fête du 24 au 27 août. Si jamais vous voulez justement entendre plus de musique, plusieurs artistes qui seront en prestation. Et on va rejoindre justement du côté de Saint-Lambert un des conseillers municipaux, Hugues Letourneau, conseiller municipal pour le District 6, qui est au bout du fil. Bonjour, M. Letourneau.
Oui, bonjour.
Et également au téléphone avec nous, Lynn Simard, qui est agente de développement et de communication au regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Bonjour, Mme Simard.
Bonjour à tout le monde.
Donc, si on vous a réunis au bout du fil aujourd'hui, en fait, c'est pour discuter tout d'abord de la politique, la politique d'accessibilité, comment ça se déroule du côté de Saint-Lambert. Peut-être, M. Letourneau, vous pouvez commencer par m'expliquer, en fait, c'est quoi ces fameux plans d'accessibilité universelle que certaines municipalités ont? Pourquoi certains en ont? Pourquoi d'autres n'en ont pas?
Alors, toute ville où donc il y a plus que 15 000 personnes qui y vivent, se doit d'avoir son plan d'action en termes d'accessibilité, donc universelle. Ce plan d'action-là a pour but d'établir tous les objectifs qu'on se doit d'avoir d'une année à l'autre dans le but d'améliorer notre potentiel d'accessibilité. Alors, c'est ce que Saint-Lambert fait depuis 4 ans.
Et on comprend que cette politique-là est nourrie par les informations, par les représentations, par les revendications également du milieu, dont celle du RAM, du regroupement des aveugles. Est-ce que vous pouvez nous parler, Mme Simard, du lien que vous avez ou de la contribution que vous avez fait à cette fameuse politique du côté de Saint-Lambert?
Bien, nous, comme on est un organisme de défense et promotion des droits, l'intégration sociale, puis la pleine participation citoyenne, c'est très important pour nous. Alors, un des axes de nos objectifs au RAM, c'est la représentation. Alors, on représente nos membres actifs. On a une citoyenne non-voyante qui fait partie aussi de cette table de concertation-là. Oh. Alors, on discute avec des représentants de la ville et d'autres organismes, que ce soit des gens qui s'occupent de la réadaptation ou des CISS Montérégie. Ensuite, qu'est-ce que d'autre, monsieur?
Il y a la sclérose en plaques. Ouais. Il y a donc des organismes qui s'occupent pour des personnes qui ont des problèmes d'audition.
Il y a le RTL, le TAL.
Le RTL, qui est le réseau de transport de Longueuil?
C'est ça, donc effectivement.
OK. Alors... Mais pour bien comprendre, en fait, puis je vous pose la question aux deux, mais peut-être que M. Letourneau sera mieux en mesure de répondre, mais est-ce que ces plans-là contiennent des obligations ou c'est pas vraiment contraint sur le plan de la loi? Là? C'est juste que vous devez soumettre des idées puis des objectifs, mais rien ne vous oblige de les remplir, en fin de compte.
Ben, c'est-à-dire que rien ne nous oblige, mais c'est un plan d'action que nous déposons devant le conseil de ville. Mm-hmm. Et je veux donc dire que le conseil de ville c'est une résolution dans laquelle donc il fait sien le plan d'action. Mm-hmm. L'intérêt ici, c'est que nous continuons donc à convoquer notre comité de consultation. Et ce comité-là, il est témoin de nos réalisations d'une année à l'autre. Alors, il y a bien sûr cette résolution, puis il y a aussi la fierté que nous devons d'avoir lorsque nous rencontrons notre comité de consultation pour lui faire part de nos réalisations et l'établissement du nouveau plan d'action.
Donc, ça sert principalement d'outil de mesure pour pouvoir mesurer d'année en année à quel point la ville a évolué sur le plan de l'accessibilité. C'est quoi votre appréciation de l'accessibilité à Saint-Lambert au moment où on se parle, si on se compare peut-être aux villes voisines?
Bien, c'est sûr que Saint-Lambert aussi, c'est une vieille ville. Alors, nous sommes présentement dans l'hôtel de ville qui date de plusieurs dizaines d'années. Il y aurait besoin, là, elle, qu'on l'adapte. Alors ça, on parle de quelques millions de dollars. Mm-hmm. Mais quant aux autres organismes, nous avons donc un centre des loisirs. Nous avons, c'est un aréna. La bibliothèque est en rénovation. Et ces lieux-là sont des lieux d'accessibilité, donc universelle. Ça, je peux vous le dire.
Mm-hmm. Puis de votre côté, Mme Simard, c'est quoi votre appréciation de l'accessibilité et peut-être les choses à améliorer dans ces prochaines années?
Bon, on a une bonne collaboration avec la Ville de Saint-Lambert. C'est déjà exceptionnel qu'il y ait un plan d'action à l'égard des personnes handicapées. De plus, il y a une politique d'accessibilité universelle. Alors, pour le RAM, c'est vraiment notre cheval de bataille, ça. Puis sur ces plans-là, on énumère tous les obstacles à l'intégration des personnes handicapées dans tous les secteurs d'activité. Ensuite, il y a des mesures qui sont prises au cours de l'année. Puis envisager pour l'année qui débute où c'est tout identifié. Alors, on travaille vraiment en collaboration avec la Ville de Saint-Lambert, contrairement à d'autres villes de la Rive-Sud. Là. Alors, je tiens à souligner qu'on a une bonne collaboration. C'est sûr que tout n'est pas parfait, mais on s'attend beaucoup en tant que citoyen à l'endroit des municipalités là, concernant les besoins les plus élémentaires comme se loger, se nourrir puis se vêtir. Là. Alors, pour les personnes avec une limitation fonctionnelle à l'occasion, ça peut nécessiter que certains services soient ajustés. Alors, c'est pour ça que nous, au RAM, on travaille en amont avec la municipalité. Pas attendre qu'ils fassent des rénovations ou des réaménagements. Ils ont des projets de construction. On travaille vraiment pour éviter les frais. Et ça, les villes sont très contentes d'éviter des dépenses supplémentaires.
Mmh. Oui, tout à fait. Moi, j'ai justement le dernier plan d'action sous les yeux. Quand on parle des obstacles ou des objectifs à remplir, par exemple, il y a l'ajout de pavés tactiles au sol sur les trottoirs pour aider les personnes non-voyantes à se guider lorsqu'il est question de traverser la rue. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs que vous aimeriez souligner pour les prochaines années, des choses à remplir, M. Letourneau?
Oui, donc il y a tous nos parcs. Alors, donc, on veut que tous les parcs aient cette accessibilité pour toute personne, quel que soit l'handicap qui l'afflige. Alors ça, nous travaillons sur cet aspect-là. Nous travaillons aussi à chaque fois que nous refaisons les coins de rue à faire en sorte qu'ils soient très bien donc adaptés aux besoins des personnes non-voyantes.
Mm-hmm.
Et puis, nous travaillons avec le réseau de transport pour que toutes les lignes qui traversent Saint-Lambert aient cette accessibilité-là pour toute personne.
C'est-à-dire, par exemple, les fameuses commandes vocales où on nous dit à quel arrêt on est rendu, comme il y a depuis peu à Montréal, par exemple.
Oui, donc effectivement, ça, c'est, je pense qu'on espère ça aussi pour la Rive-Sud, mais ce n'est pas encore présent.
Mm-hmm.
Là où il y a des feux de circulation, ben, de faire en sorte qu'il y ait des moyens pour toute personne pour pouvoir traverser en toute sécurité ces coins de rue.
Par exemple, des feux sonores?
des feux sonores. On en a un au coin de Notre-Dame et de Riverside. Mm-hmm. Il y a une personne qui nous en a fait donc une demande au coin d'Horse Farm et Victoria. Alors, nous travaillons sur cet aspect-là. Ce comité-là est en liaison avec un autre comité aussi de la ville, qui est le comité sur la gestion des déplacements, dont je suis le président. Alors, j'essaie de faire les liens et de finalement qu'on soit très sensible à toutes les demandes qui nous sont faites dans la réalisation.
J'en profite d'avoir un accès privilégié à deux personnes qui sont dans ce milieu-là et qui travaillent presque quotidiennement dans ces dossiers. Mais pour savoir quelqu'un, par exemple, qui voudrait faire installer un feu sonore, un coin de rue où il trouve que c'est dangereux, c'est quoi la procédure à suivre?
Bien, la procédure à suivre, c'est vraiment de joindre son spécialiste en orientation et mobilité dans un centre de réadaptation. Lui, il va faire l'analyse de l'intersection. Il va juger si c'est pertinent ou non. Ensuite, il va monter un dossier qu'il va soumettre à la ville.
Est-ce que ça peut prendre beaucoup de temps, ça?
Oh mon Dieu, pour certaines villes, on vient d'en obtenir un pour l'arrondissement de Saint-Lambert. Ça nous a pris 12 ans au coin Jacques-Marcille. Alors oui, c'est de longue haleine pour que ça soit accepté. Oui, malheureusement, c'est très long.
Mm-hmm. Est-ce que vous avez des réactions à ce sujet, M. Letourneau?
Ben, c'est-à-dire, ici, dans Saint-Lambert, c'est une petite ville. Hein? Mm-hmm. Alors, par rapport donc au comité dont je vous parlais sur la gestion des déplacements, nous avons donc un formulaire. Alors, ça veut dire que si la personne a son dossier monté ou qu'elle peut nous présenter quel est son besoin, quel est l'obstacle qu'elle rencontre, ce comité-là va se pencher sur sa demande. Mmh. Et alors, si on a besoin de plus d'informations, on va revenir directement vers cette personne-là qui est une citoyenne de notre ville et nous regardons si c'est pas possible de faire ce qu'elle nous demande, est-ce qu'il y a donc un autre moyen pour satisfaire son besoin.
Super. En terminant, Lynn Simard, vous serez à cette fameuse fête de Saint-Lambert. Vous allez tenir un kiosque là pour aller rencontrer les citoyens, c'est bien ça?
Oui, exactement. On a apporté nos lunettes de simulation pour que les festivaliers se rendent compte c'est quoi se déplacer avec une pathologie oculaire qui empêche de circuler facilement dans la ville. Mm-hmm. Aussi, on va donner des petits cadeaux, là, si ça peut attirer les gens, là, des petites épinglettes et des manettes là, pour mettre le frigo. Alors, venez tout le monde. Nous, on est là aujourd'hui avec M. Letourneau. M. Letourneau sera là pendant les 4 jours. Puis je vous invite aussi à venir dimanche après-midi. Deux membres du RAM sont là, des personnes non-voyantes qui vont être en mesure de vous expliquer vraiment qu'est-ce que c'est se déplacer dans la ville de Saint-Lambert.
L'invitation est lancée, donc, si on veut tester ses déplacements avec ses fameuses lunettes, au centre-ville, sur l'avenue Victoria, où a lieu Saint-Lambert en fête. Ça commence aujourd'hui jusqu'au 27 août. Vous pouvez en profiter pour aller dire un petit bonjour à Lynn Simard et ou à Hugues Letourneau qui s'y trouveront. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Merci beaucoup.
Bienvenue tout le monde.
C'est bien gentil. Je termine cette émission en vous lisant quelques communiqués du milieu. Ben, tout d'abord, on parlait au RAM et justement, le RAM nous envoyait ce message. L'équipe du RAM invite ses membres à se joindre au comité de sensibilisation pour organiser une action dans le cadre de la Semaine de la Canne Blanche 2018. C'est grâce au comité de sensibilisation que la série de capsules vidéo « Non-voyant mais pas invisible » a été produite en 2016 et que 2000 dépliants, une canne pour voir, ont été distribués en 2017. Qui sait quel sera le fruit de ce comité cette année? Venez partager vos idées, même les plus farfelues, et mettre la main à la pâte pour organiser la prochaine action de sensibilisation. La Semaine de la Canne Blanche 2018 aura lieu du 4 au 10 février prochain. Les rencontres du comité de sensibilisation débuteront en septembre. Si vous êtes intéressé, vous pouvez communiquer au 514-277-4401. Poste 107 ou écrire à Christine Letendre à C Letendre commercial RAAMM.org. C'est le seul communiqué que j'aurai le temps de vous lire, une émission bien remplie. On aime ça comme ça. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Merci à Mathieu. Merci également à Sylvie et à Christiane Campagnan qui est venue nous rejoindre en studio tout à l'heure. Merci à Clotilde Seille. Moi, je vous donne rendez-vous demain. Je serai encore là en remplacement de Clotilde. On aura encore beaucoup de beaux sujets pour vous. Merci beaucoup d'avoir été là. Et d'ici demain, eh bien, portez-vous bien.